C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Le magazine Fugue vient de publier son 500e numéro. 500, c'est pas rien. Pour en parler, je reçois Yves Lafontaine, rédacteur en chef et directeur du magazine, poste qu'il occupe depuis plus de 30 ans. Wow, salut Yves!
Bonjour Denis Martin.
Ça prend de la patience. 30 ans!
32 ans pour
32
être précis.
Ans pour être précis. Fugue est né en 1984, en pleine crise du VIH. Quel rôle le magazine a-t-il joué à ce moment-là?
Bien, au départ, il faut comprendre que le magazine était d'abord et avant tout un guide de sortie.
C'est vrai. À l'époque, hein, dans
exactement.
Le besoin de ça. Il
n'y
avait pas d'Internet, hein?
Mais comme c'était un magazine qui était populaire, qui avait un large audience entre 18 et 35 ans, il y a beaucoup de professionnels, il y a des gens de la santé qui se sont intéressés à y avoir une présence dans le magazine. Donc, sans le vouloir, le magazine a accueilli des gens qui étaient plus impliqués. Mais c'était pas le mandat
d'origine. Au départ,
c'était
pas un média d'information. Ça l'est devenu.
C'était un média d'information par rapport à toute l'actualité de sortie.
Oui.
Puis, mais rapidement, et depuis ce temps-là, le magazine a fait plus que juste informer et divertir. Il s'est aussi engagé, il a donné la parole à beaucoup de militants et de personnes qui étaient engagées dans le communautaire.
C'est quasiment devenu un point de ralliement, le magazine. À peu près tout le monde est là-dedans.
Mais je pense que ce qui fait d'ailleurs la réussite et la longévité du magazine, c'est d'avoir et d'être toujours resté très près de la communauté LGBTQ+.
Comment tu définirais... Toi, tu es arrivé un peu plus tard dans le processus, là, mais comment tu... qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ça en main?
Bien, l'idée, c'est que le magazine était en croissance. Moi, j'étais à ce moment... En 1994, plutôt en 93, j'étais à la programmation du Festival Imagination.
C'est vrai.
C'était un programme d'emploi. Parce que mon précédent emploi, je l'avais perdu, puis j'étais comme dans un flottement. Le festival me connaissait. Donc, pendant la durée du festival, j'ai rencontré le directeur du magazine, qui était le propriétaire à l'époque, Martin Hamel, qui m'avait dit tout bonnement, mais comme beaucoup de personnes te disent, j'ai besoin de quelqu'un, puis tu dis, il ne me rappellera pas. Puis après les fêtes, il me rappelle. Et il me dit, t'es-tu toujours intéressé? J'ai dit, oui. Ben, il dit, viens me rencontrer. On se rencontre. Puis, à la fin de l'entrevue, il dit, ben, tu commences quand? Donc, ça s'est fait.
Ça a commencé
comme
journaliste.
C'est plutôt, il faut comprendre qu'à l'époque, ce que je pourrais dire, c'est que les rôles n'étaient pas aussi distincts que maintenant. Tout le monde faisait un peu de tout.
Ouais.
Et quand je suis arrivé, moi qui avais travaillé aussi pour un autre magazine, 24 images, magazine de cinéma, où tout était à l'opposé, hyper, je dirais, les tâches étaient hyper définies, j'ai comme lentement intégré l'idée que ce serait peut-être plus avantageux pour le fonctionnement du magazine que nos tâches soient plus distinctes.
Ouais.
Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais quand je suis arrivé avec des idées un peu neuves qui correspondaient aux résultats, curieusement, d'un sondage que Martin avait fait faire pour une étude de profil de lecteur. Il avait commandé une agence externe. Puis la plupart des choses que je recommandais étaient dans ce rapport-là. Donc, il m'a un peu donné carte blanche parce qu'il ne savait pas trop... Tu sais, le magazine fonctionnait très bien au niveau financier. Donc, pour lui, il ne voulait pas faire trop de changements. Et les changements qu'on a faits, on les a faits graduellement. Puis moi, l'idée, c'était vraiment de rapprocher le côté rédactionnel du communautaire, ce qui n'était pas là beaucoup avant. Il y avait une présence du communautaire, mais plus comme un soutien du magazine à des activités communautaires avec des espaces publicitaires gratuits, puis des communiqués.
Ouais.
Mais rapidement, j'ai engagé des gens qui ont été à la pige pour rédiger des articles sur... Tu sais, le mois où je suis arrivé, c'est simple, c'était la descente aux catacombes.
Ah oui.
Donc, le premier mois où j'arrive, j'ai dit, bien, il faut qu'on fasse quelque chose sur ça. Puis, on met qui sur ça? Bien, on va mettre telle personne. J'ai dit, non, ça, c'est pas la... Il faut vraiment prendre quelqu'un qui va avoir une approche journalistique sérieuse sur un sujet comme ça, pas juste l'aborder de manière un peu humoristique. Là, c'est quelque chose qui va toucher la vie de personnes. Donc, ce numéro-là, on a eu comme un très, très bon feedback par rapport à l'article parce que c'était comme une entrevue avec un avocat qui expliquait comment les personnes qui étaient accusées pouvaient se défendre. Il y a eu un début de comité, justement, de défense suite à cet article-là. Ouais. Donc,
C'est ça qu'on voit finalement que le magazine Fugue prenait de plus en plus un rôle journalistique puis un rôle aussi de journalisme de service avec cette entrevue-là.
Ouais.
T'es devenu propriétaire quand de Fugue?
Ben, en la pandémie. Ben, ouais. Je veux dire, j'étais un actionnaire minoritaire. C'était une manière, depuis le début des années 2000, mais la pandémie, l'actionnaire principal décide de prendre sa retraite après négociation, moi puis deux de mes collègues, on a décidé de faire l'achat du magazine pour le continuer, mais avec une formule un peu différente dans la mesure où le modèle d'affaires, il fonctionnait plus. Là, tu sais, on avait un bureau, on avait 13 employés, à temps plein, c'était plus viable là, économiquement. Donc, on a réduit l'équipe de permanence et on a coupé le bureau, ce qui nous a permis de poursuivre à faire un magazine de qualité sans que ça paraisse vraiment pour...
Il y a une espèce de mouvement aussi en ligne parce qu'on retrouve de plus en plus d'articles. Mais,
en même temps, il faut comprendre que le magazine est en ligne depuis 1998.
Ouais.
Donc, c'est pas récent. C'est juste que à chaque 5-6 ans, on refait le site Internet. Il devient plus actuel. Mais notre présence en ligne, on était parmi les premiers magazines qui avaient une présence en ligne à la fin des années 90.
La mission de Fugue maintenant, comment tu la définis?
Bien, l'idée, c'est qu'on n'a jamais été un magazine militant comme tel, pas comme Le Bordache ou comme la Revue 13 l'a été aussi pour les lesbiennes. Je dirais que nous, c'est de trouver un équilibre entre l'information, le conseil d'activité, les dossiers de qui sont plus de fond, des reportages, des entrevues. Donc, c'est de trouver un équilibre entre tout ça. Nous, on ne s'adresse pas à une clientèle très ciblée de, disons, de 20 à 25 ans ou de 20 à 30 ans. Notre lectorat est vraiment de 18 à 60 ans. Là. Tu sais, la majorité de nos lecteurs, là, c'est évident qu'on a un peu d'adolescents, mais qui nous voient plus sur le site web.
Oui.
Et une clientèle plus âgée, mais c'est quand même assez minoritaire dans la mesure où il y a beaucoup de personnes passant un certain âge qui se retirent un peu de la vie publique, là, t'sais, qui sortent moins. Le magazine est quand même associé encore à quoi faire et les sorties.
C'est vrai qu'il y a quand même l'agenda de ce qui se passait là. Yves, quand on regarde le lectorat de Fugue et tout ça, est-ce que de plus en plus les gens se retirent du papier et vont plus lire en ligne? Est-ce qu'il y a encore autant de magazines qui est imprimé?
Bien, l'idée, c'est qu'il y a eu des variations d'impression. Là, on est rendu à une variation entre 24 et 27 000 exemplaires
quand
par
même.
Mois.
Ouais.
On a déjà eu, dans le passé, 55 000 exemplaires par mois. Mais il y avait plus d'annonceurs et l'Internet n'était pas aussi important. Le magazine, en format magazine, il est aussi disponible de manière numérique, non seulement sur Fugue, mais sur 4 autres plateformes numériques de lecture que les gens ne consultaient pas avant parce qu'ils n'existaient pas comme Biblimag.
Ouais.
Nous, il y a quelques années, Biblimag, quand ils ont lancé ça, c'est le site des bibliothèques francophones du Canada. Et tous les magazines qui sont disponibles en bibliothèque sont disponibles aussi.
Oui.
Exactement. Et nous, maintenant, on a plusieurs dizaines de milliers de lecteurs juste sur cette plateforme-là qu'on ne rejoignait pas avant.
Puis, de toute façon, on peut aller, hein, tous les jours, le site web est remis à jour, on peut avoir les nouvelles du jour. Il y a vraiment eu une évolution.
Dirais que le lectorat magazine reste encore pour beaucoup de personnes la manière de lire le magazine. T'sais, je veux dire, en version imprimée, parce que, de toute façon, on ne lit pas de la même manière l'information ou on ne se divertit pas de la même manière en lisant un magazine que en lisant des nouvelles sur Internet. Souvent, on va aller à tel onglet, puis on va même l'avoir en mémoire, on ne passera plus par la page sommaire, alors que c'est difficile de ne pas passer par les premières pages d'un magazine.
En fait, c'est vrai.
Exactement.
Les temps sont durs pour tous les médias d'information imprimés. Fugue a quand même, comme tu as dit, a connu une métamorphose pendant la pandémie. Il n'y a plus de bureau, on travaille de chez soi, on a réduit les équipes. C'est quoi le plus grand défi qui reste pour que Fugue survive encore?
L'idée c'est qu'il faut comprendre qu'un magazine comme Fugue, avant, dans le passé, c'était essentiellement des revenus qui venaient de la publicité. Là, ça reste encore, ça demeure une partie importante des revenus, mais on a des abonnements de soutien qui étaient presque inexistants avant. Pas inexistants, mais qui ne comptaient pas beaucoup parce qu'ils ne couvraient même pas les frais de livraison. Ouais. Alors que maintenant, les abonnements de soutien, c'est non seulement ça couvre les frais de livraison, mais les gens, c'est comme si c'était un engagement là, communautaire. Là. On est prêt à payer un peu pour le service qui est rendu.
Donc, la version papier va exister encore pour un bout?
On l'espère. T'sais, tant qu'il va y avoir des lecteurs et qu'il va y avoir suffisamment d'annonceurs pour le faire, oui, effectivement. Ça ne fait pas partie des plans de fermer le magazine pour être uniquement sur Internet. D'autant plus que la publicité sur Internet, on sait, elle est concentrée...
Elle est avalée par les géants du web Meta qui vous boycottent. Hein, vous n'avez toujours pas le...
Il faut comprendre que c'est Meta. Hein,
Meta.
La problématique, Google a eu une entente avec le gouvernement du Canadien. Il verse aux médias canadiens 100 millions de dollars par année.
Ils en reçoivent un petit peu de ça?
Oui.
Ah, mais c'est bon. Fait qu'il y a juste Meta qui est encore le mauvais garçon dans tout ça.
Effectivement.
Juste pour terminer avec... on est quand même dans un autre monde. Hein. Il semble qu'on est dans l'ère de la post-vérité, de la montée des extrêmes, la montée de la haine vis-à-vis de nos communautés. Comment vous gérez ça chez Fugue?
Nous, on a comme une tolérance zéro là, des commentaires négatifs. Même si ça nous enlève peut-être un certain nombre de personnes qui on bloque tout simplement... les gens sur les réseaux sociaux, quand il y a un manque de respect, autant des gens qui ont écrit les articles que des personnes qui sont... tu peux avoir des opinions contraires, mais il y a un niveau...
La haine n'a pas sa place.
Exactement.
Mais je veux dire aussi au niveau de la couverture, parce que ça change aussi beaucoup les nouvelles. Hein. On vit beaucoup dans ce monde-là.
On est obligé de compenser un peu par rapport aux nouvelles fausses. Là. C'est évident.
C'est beaucoup de travail à faire. Yves Lafontaine, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir.
Merci.
Yves Lafontaine, rédacteur en chef et directeur de Fugue Magazine.